Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée « Les poèmes du lundi » aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 17h50 sur fréquence Mistral 99.3.
Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Sophie, bienvenue sur Fréquence Mistral pour notre rendez-vous mensuel sur la poésie, les poèmes du lundi. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulière, c'est les poèmes sur la nature, le thème. C'est bien ça, Sophie ?
Oui, c'est pas vraiment sur la nature, c'est de la nature par rapport, enfin, c'est des poèmes de poètes connus qui, et c'est sur l'eau, la mer, l'école, enfin, l'école faisant partie de la nature. Et c'est surtout, je travaille avec un livre de Georges Jean, qui a fait des livres d'or de la poésie. Il en a fait beaucoup. Et c'est magnifique, son commentaire et son choix est magnifique. Voilà.
Alors, vous avez choisi qu'on commence l'émission avec une chanson d'Alain Leprest.
Voilà, Alain Leprest que j'ai connu, qui est un poète extraordinaire, un très bon... Plus que ça, un artiste, un être humain très fort, très généreux, très chaleureux, fraternel et avec beaucoup de talent. C'est dommage qu'il ait disparu si vite.
Donc on écoute Nu.
Nu. J'ai vécu nu, naufragé de naissance, sur l'île de ma l'enfance, dont nul n'est revenu. Nu, j'ai vécu nu, dans des vignes sauvages, gonflées de vin de rage et de corsage ému. Nu. Vieillard, j'ai nu, j'ai nagé dans tes cieux, depuis des terres de feu jusqu'aux herbes ténues. Nu, j'ai pleuré nu, dans la buée d'un miroir, le cœur en gyrophare. Qu'est-ce qu'on s'aimait, Samu? Un globule de sang, un neutrone dénu. Mais nu, le torse nu, je voudrais qu'on m'inhume dans mon plus beau posthume. Pacifiste inconnu.
Quelle belle chanson. Victor Hugo. Victor Hugo, nous allons, qui est un auteur que tout le monde connaît, bien sûr, mais on ne le connaît pas tellement bien, en fait. On le connaît d'une façon souvent scolaire et un peu, disons, un peu critique. Donc, lui, il est né à Besançon, il est mort à Paris. Et on a beaucoup, on a tellement dégoûté des générations d'enfants et d'adultes de Victor Hugo en faisant le grand-père officiel de la récitation à l'école, qu'il est temps de découvrir un immense poète aux voix infinies. Mère vraie, mère imaginaire, jamais Hugo n'avait à ce point fait entendre la mer, ses rafales avec derrière encore les drames des travailleurs de la mer. Le bruit, rien n'est vu, et le retour du refrain, le vent de la mer souffle dans sa trompe, scande les battements de la tempête invisible. D'ailleurs, le titre, la nuit qu'on entendait la voir, qu'on entendait la mer sans la voir. Quels sont ces bruits sourds? Écoutez vers l'onde cette voix profonde qui pleure toujours, en qui toujours gronde, quoiqu'un son plus clair parfois l'interrompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir, n'est-ce pas, mon hôte? Là-bas, à la côte, le ciel est bien noir, la mer est bien haute, on dirait l'hiver, parfois on s'y trompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Oh, marin perdu, au loin dans cette ombre, sur la nef qui sombre, que de bras tendus vers la terre sombre. Pas d'encre de fer que le flot ne rompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Nochez imprudents, le vent dans la voile déchire la toile comme avec les dents. Là-haut, pas d'étoiles. L'un lutte avec l'air, l'autre est à la pompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. C'est toi, c'est ton feu que le nocher rêve. Quand le flot s'élève, chandelier que Dieu pose sur la grève, phare au rouge éclair que la brume estompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. La mer. Toujours la mer avec Victor Hugo. Et aussi avec Neruda, qui a écrit un poème qui s'appelle « À la mer », lui aussi, la mer, il en parlait beaucoup. Il vivait d'ailleurs pas loin de la mer, au milieu de la mer, dans son île noire. Alors, c'est... Pablo Neruda est mort... Au moment du putsch en Chili, il est mort 3 jours après la fameuse, l'horrible journée du 11 septembre 1973. Il est mort quelques jours après. Il était très malade, mourant. On l'a transporté à l'hôpital et il a dit, en regardant tous les soldats, « Todos muertes ». Donc, il est très grand poète. Qui n'a pas fini, donc on ne peut même pas lire toute l'œuvre tellement elle est importante. Donc c'est un fragment d'un très long poème sur la mer. Mais tout, me semble-t-il, est dans l'apostrophe. Ô camarade océan, force hostile, force de vie, producteur du poisson de chaque journée pour les pauvres, cuisine de la terre. À la mer. Ici, autour de l'île, la mer, que de mer. Elle déborde d'elle-même à chaque instant. Elle dit oui, elle dit non, elle dit non, non et non. Elle dit oui en bleu, en écume, en galop. Elle dit non et non. Elle ne peut pas rester tranquille. Elle répète « Je suis la mer » en frappant sur une pierre sans pouvoir la convaincre. Alors, avec les 7 langues vertes, de 7 chiens verts, de 7 tigres verts, de 7 mers vertes, elle la parcourt, l'embrasse, la trempe et se frappe la poitrine en répétant son nom. « Oh, mer, tu t'appelles ainsi. Oh, camarade d'océan, ne perds pas le temps et l'eau, ne te secoue pas tellement, aide-nous. Nous ne sommes que des pêcheurs, des hommes du rivage. Nous avons froid et faim, tu es notre ennemi. Ne frappe pas si fort, ne crie pas ainsi. Ouvre ta boîte verte et dépose entre nos mains à tous ton cadeau d'argent, le poisson de chaque jour. Ici, dans chaque maison, nous le voulons, et qu'il soit d'argent, de cristal ou de lune, il est né pour les pauvres, cuisine de la terre. Ne le garde pas, avare, glissant froid comme un éclair mouillé sous tes vagues. Viens, viens, maintenant ouvre-moi, ouvre-toi, et laisse-le près de nos mains. Aide-nous, océan, père profond et vert, à supprimer un jour la misère terrestre, récolter la moisson infinie de nos vies, de tes blés, de tes raisins, tes bœufs et tes métaux. La splendeur mouillée est le fruit submergé. Conversation de baleine sous la mer. On va écouter aussi un poète très ancien, enfin, pas tellement ancien, il est du 12e siècle. Donc, il est de la région d'Orléans. Et il est l'auteur de la première partie du roman de La Rose. La transcription en français moderne d'un texte du 13e siècle écrit par un jeune poète de 25 ans laisse transparaître la joie éclatante d'un homme qui découvre une matinée de printemps. Ce serait banal, c'est des détails minutieux, les répétitions n'en faisaient une sorte de tapisserie, une fresque vive, remplie de musique avec des détails saugrenus, le perroquet et l'alouette. Un peu à la manière des tableaux de Fra Angelico, des miniatures dans leur éclatante vivacité. Matin de mai. Oh, Il me semblait que c'était le matin, il y a bien 5 ans au moins. Mon rêve se passait en mai, dans la saison d'amour, pleine de joie, au temps où tout être se réjouit, car on ne voit buisson niais qui ne veuille en mai se parer et se couvrir de feuilles nouvelles. Les bois retrouvent leur verdure, qui sont secs tant que dure l'hiver. La terre même s'enorgueillit de la rosée qui la mouille et oublie la misère, et elle a été tout l'hiver. Alors la terre devient si fière qu'elle veut avoir robe nouvelle. Elle sait se faire une robe si gracieuse qu'elle a 1000 couleurs, herbes et fleurs blanches et bleues, et de maintes couleurs diverses. Telle est la robe que je décris et que préfère la terre. Les oiseaux qui se sont tus tant qu'ils ont eu le froid en un temps changeant et pénible sont en mai, à cause du temps serein, si joyeux, qu'ils montrent par leur chant que la joie de leur cœur les force à chanter. Le rossignol s'efforce alors de chanter, de faire du tapage. Alors se réjouissent et s'amusent le perroquet, l'alouette. Il faut alors que les jeunes gens s'adonnent à la gaieté et à l'amour, dans la beauté et la douceur de la saison. Il a le cœur bien dur qui n'aime pas en mai, quand il entend sur les branches les oiseaux lancer leur doux chant tendre. Alors, sur ce chant, nous arrivons à Guillaume Apollinaire. Alors, de son vrai nom, Guillaume Apollinaire, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki, né à Rome et mort à Paris. Je ne donne pas les dates, hein, bien sûr. On a dit d'Apollinaire qu'il était le premier moderne, ou encore le dernier romantique. Il est surtout un poète essentiel dont le chant ne pourrait être traduit d'aucune manière tant il est la poésie même. Alors sur automne, ces 8 vers, inexplicablement, contiennent le chant profond d'un poète qui touche à l'essentiel sans lourdeur. Des silhouettes, l'écho d'une mélodie, un regret. Les enfants sentiront mieux que personne, sous cette absence de bavardage, une saison, la saison mentale d'Apollinaire. Automne. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. S'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont 2 silhouettes grises. Voilà pour maintenant Apollinaire avec l'automne. Et nous allons passer vers un grand poète aussi, Paul Éluard, de son vrai nom, Eugène Grindel. Hein? On ne le connaît pas, ce nom-là. Donc, à partir de... Donc, lui, on va revenir au printemps avec lui, hein, parce que c'est... ça change. Les saisons, elles passent vite hein, dans notre vie. Le printemps. Donc, c'est... certains ont pu dire de la poésie de Éluard qu'elle était tout intérieure. Ce poème montre, s'il en était besoin, que le poète des yeux fertiles est également un regard pénétrant sur le monde qui l'entoure. Ce début de printemps est saisi dans ses images essentielles. La deuxième strophe installe ce printemps réel dans l'imaginaire. Mais l'imaginaire est réel. L'amour, le printemps, s'affirme. Printemps. Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux. La neige fond dans la montagne. Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs que le pâle soleil recule. C'est par un soir d'hiver dans un monde très dur que je vis ce printemps près de toi, l'innocente. Il n'y a pas de nuit pour nous. Rien de ce qui périt n'a de prise sur toi et tu ne veux pas avoir froid. Notre printemps est un printemps qui a raison. Supervielle. Voilà un poète dont on parle peu. D'ailleurs, les poètes, aujourd'hui, ils sont plutôt en hiver. Hein. Ils sont dans des coins cachés, secrets, dans des grottes, dans des vieilles maisons ou n'importe où, dans la rue surtout. Jules Supervielle. Un poète se prend un peu pour Dieu et raconte à sa manière la fable ou la création du monde. Ici, la naissance des arbres et de tout ce qui peuple la forêt devient, pour moi, la naissance d'une poésie qui, comme Dieu, point d'interrogation, les poètes et les enfants inventent le monde en le nommant. Faites comme eux. Gilles Supervielle est né en Uruguay, à Montevideo, il est mort à Paris. Il y a beaucoup de poètes qui viennent mourir à Paris. Poète de l'amitié, amitié du ciel et de la terre, de la mer et du vent, des arbres et des bêtes, enfin tout ce qui vit, quoi. Premier arbre, le premier arbre. C'était lors de mon premier arbre. J'avais beau le sentir en moi, il me surprit par tant de branches. Il était arbre mille fois, moi qui suis tout ce que je forme, je ne me savais pas feuillu. Voilà que je donnais de l'ombre et j'avais des oiseaux dessus. Je cachais ma sève divine, mais ce fut qui montait au ciel. Mais j'étais pris par la racine comme un piège naturel. C'était lors de mon premier arbre. L'homme s'assit sous le feuillage, si tendre d'être si nouveau. Étais-je un chêne ou bien un orme, hein? C'est loin, je ne sais pas trop. Mais je sais bien qu'il plut à l'homme qui s'endormit les yeux en joie pour y rêver d'un petit bois. Alors au sortir de mon somme, d'un coup je fis une forêt de grands arbres nés centenaires et tous 100, 300 cerfs la parcouraient avec leurs biches déjà mères. Ils croyaient depuis très longtemps l'habiter et la reconnaître. Les six corps et le bramement, non loin de fin encore à naître. Ils avaient à peine jailli, plus qu'il ne fallait d'espérance, ils étaient lourds de souvenirs qui dans les miens prenaient naissance. D'un coup, je fis chêne, sapin, beaucoup d'écureuils pour les cimes, l'enfant qui cherche son chemin et le bûcheron qui l'indique. Je cachais dans mon mieux le ciel, pour ces distances malaisées, mais je le redonnais pour tel dans les oiseaux et la rosée. Nous allons maintenant passer dans un pays très agréable, très chaud, un vrai petit paradis, la Guadeloupe. Extrait d'une anthologie nègre, on peut dire, qu'avait traduit Blaise Cendrars, le poète, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, moi j'ai vu un nom quelque part, Fang du Gabon, je crois. Enfin, on ne sait pas trop qui c'est qui a écrit ce poème, mais c'est un poète guadeloupéen traduit par Blaise Cendrars. Ce chant fait partie d'un long récit relatant dans l'ethnie Fang du Gabon, en Afrique noire, la légende des origines du monde. Voilà, le poète Fang, il est collectif. Le chant du feu est un chant d'hommage et de remerciement à celui qui a donné le feu aux hommes. Et c'est une danse d'ailleurs. Feu de la terre, feu du foyer d'en bas, feu du ciel, feu du foyer d'en haut. Ça, c'est rythmé comme ça. Le feu destructeur et bienfaiteur, car il fertilise la terre. Le feu à double face, comme dans le poème voisin de Paul Éluard, pour vivre ici. Ça s'appelle « Au feu ». Feu, feu. Feu du foyer d'en bas, feu du foyer d'en haut, lumière qui brille dans la lune, lumière qui brille dans le soleil, étoile qui étincelle la nuit, étoile qui fend la lumière, étoile filante. Esprit du tonnerre, ciel brillant de la tempête, feu du soleil qui nous donne la lumière, je t'appelle pour l'expiation. Feu! Feu! Feu qui passe et tout meurt derrière tes traces. Feu qui passe et tout vit derrière toi. Les arbres sont brûlés, cendres et cendres. Les herbes ont grandi, les herbes ont fructifié. Feu, ami des hommes, je t'appelle feu pour l'expiation. Feu, je t'appelle feu, protecteur du foyer. Tu passes. Ils sont vaincus. Nul ne te surpasse. Feu du foyer, je t'appelle pour l'expiation. Feu, feu, feu d'en haut et feu d'en bas. Le feu, toujours, toujours le feu, avec Francis Ponge. Alors, il ne s'agit pas de la matière du feu. Une tentative pour faire du texte une manière de conquête du feu dans et par les mots. Les comparaisons avec la marche des animaux sont de ce fait beaucoup plus recherchées de vérité que de jolies comparaisons. Donc, voilà, le feu... Francis Ponge, que j'aime beaucoup. Le feu. Le feu fait un classement. D'abord, toutes les flammes se dirigent en quelque sens. L'on ne peut comparer la marche du feu qu'à celle des animaux. Il faut qu'ils quittent un endroit pour en occuper un autre. Ils marchent à la fois comme une amibe et comme une girafe. Loup bondit du col, rampe du pied. Puis, tandis que les masses contaminées avec méthode s'écroulent, les gaz qui s'échappent sont transformés à mesure en une seule rampe de papillons. Alors nous changeons un peu de climat, nous allons parler de l'escargot. C'est un poète un peu secret, mystérieux, dont on parle peu. Il y a un théâtre à Marseille qui porte son nom, Théâtre Tourski. Alexandre Tourski, il n'est pas né en Russie, il est né à Cannes. C'est un poète français, sensible, fantaisiste, qui aime l'insolite et cache son amertume. Mérite d'être mieux connu. Il est mort en 1970, donc c'est tout près. Le poète est bien celui qui saisit les êtres dans leur nature profonde, et même les êtres humbles et obscurs. Ici, un escargot. Mais dans l'angoissante ou humoristique vérité d'une sorte de mouvement lent et perpétuel. L'escargot. L'escargot se déplace dans une continue création de son corps, s'invente et se rejoint. Il glisse avec aisance dans le tunnel sans fin de son identité. On le dit peu rapide. sans voir que le précède de son image future et qu'il avait en lui la route qu'il emprunte. Voilà un escargot qui passe. Bien, nous allons passer, après l'escargot, à un marteau. Un marteau. Alors, un marteau, c'est le poète Guillevic, qui écrit aussi des poètes brefs, mais très, qui ont beaucoup de force, beaucoup de contenu. Alors, Guillevic, je ne sais pas comment il est aujourd'hui, je n'ai plus entendu parler de lui depuis longtemps. Alors, on ne sait plus comment les gens, les poètes, peuvent disparaître comme ça. On ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. C'est très impressionnant. Alors, voyons, je vais regarder ça. Voilà, Guillevic. Alors, lui, il est né à Carnac, pas à Cannes, à Carnac, en Bretagne, en 1907. Ce poète n'aime pas les longs développements. Quelques mots lui suffisent pour évoquer l'univers des choses, les rochers, les villes, les êtres. C'est un poète qui peuple le silence. Comme la plupart des textes de Guillevic que vous trouverez dans ce livre, ce poème est important pour ce qu'il ne dit pas. Une sorte de leçon ou d'appel. Un jour, il faudra prendre avec les mains de l'eau d'un fossé. Car ce geste devient un geste interdit ou impossible pour beaucoup d'hommes et d'enfants des villes. Toute la suite, c'est un peu la solidarité nécessaire de l'homme et des éléments. Qu'il fasse clair ou qu'il fasse nuit sur les prairies, un jour il faudra prendre avec les mains de l'eau d'un fossé pour qu'en tombe une goutte au hasard du vent sur un mur perdu entre bois et pré. Parce que c'est la pierre, parce que c'est l'eau et parce que c'est nous. Guillevic. Alors, il faut lire ces poèmes, ils sont vraiment, je sais pas, on se régale quoi à lire. Ils sont brefs et puissants. Donc, nous allons passer après Guillevic à Raymond Queneau. Raymond Queneau, tout le monde connaît aussi, hein. Page 90, la leçon de choses. Lui, il est né en 1903, romancier, poète, connu par son humour, ses jeux de mots. Mais Queneau est également un très grand rêveur, sans doute désespéré, mais sachant rire en dedans. Cette leçon de choses est la pédagogie même. Alors, pas de commentaires et faisons le maître Queneau à ses poussins, à ses questions. Ovoïde qui a la forme d'un œuf. La leçon de choses. Venez, poussins, asseyez-vous. Je vais vous instruire sur l'œuf dont tous vous venez, poussins. L'œuf est rond. Mais pas tout à fait. Il serait plutôt ovoïde, avec une carapace. Et vous en venez tous, poussins. Il est blanc pour votre race, crème ou même orangé, avec parfois collé un brin de paille. Mais ça, c'est un supplément. À l'intérieur, il y a. Mais pour y voir, faut le casser. Et alors, d'où vous, poussins, sortiriez? Une leçon brève, mais... Oui, tu le fais éteindre. Alors, voilà un poète qui est un survivant du surréalisme, Philippe Soupeau. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de le connaître et il m'avait, le jour où j'ai fait sa connaissance, il m'a grondé énormément, il m'a vraiment presque fâché. Il était très, très agressif avec moi parce que j'étais en train de préparer un spectacle du Moyen-Âge, la première pièce, disons, la première pièce musicale de la France, du français, c'était le jeu de Robin et de Marion du XIIIe siècle. Et j'en étais complètement timbrée. Mais ça a d'ailleurs eu un très grand succès. Et il m'a grondé parce que je montais ça. Qu'est-ce que vous avez à faire avec cette langue ? Mais vraiment, j'oublierai jamais cette algarade dans un salon où il y avait chez des amis. J'en parle de Philippe Soupeau, mais je garde une grande sympathie pour lui. Il avait peut-être raison, je ne sais pas. Alors donc, une espèce de comptine. Ça s'appelle « Grammaire », le poème que je vais vous dire. Soupeau aimait beaucoup ce genre de poésie. À ne pas prendre au sérieux. Peut encore consoler certains jours. Hein ? Grammaire. Peut-être et toujours peut-être. Adverbe que vous m'ennuyez avec vos presque ou presque pas quand fleurissent les apostrophes. Et vous, point et virgule, qui grouillez dans les viviers où nagent les subjonctifs, je vous empaquette vos ficelles. Soyez maudits, paragraphe. Pour que les prophéties s'accomplissent, bâtards honteux des grammairiens et mauvais joueurs de syntaxe. Sucez vos impératifs et laissez-nous dormir une bonne fois. C'est la nuit et la canicule. C'est vrai qu'il parlait comme ça. Jacques Prévert. Jacques Prévert, ce poème bien connu de Jacques Prévert n'est sans doute pas un texte à la gloire du cancre. C'est beaucoup plus. J'y vois un poème dédié à l'enfance libre d'aimer, aux enfants qui regardent le bonheur, ces enfants qu'une école que l'on voudrait bien voir disparaître condamnait à tout jamais. Voilà, ça c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Alors c'est le cancre, bien sûr. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il désigne le visage du bonheur. Ha 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 ha! Ah. Guy Tyrolien. Vous connaissez Guy Tyrolien? Oui, moi je l'ai découvert. Ce qui pourrait être le charmant récit d'un petit nègre faisant l'école buissonnière devient un vigoureux réquisitoire, une condamnation, mais le charme reste. Reste en effet le tendre hommage d'un enfant à la nature et de son pays natal, à ses légendes, à ses habitants. N'y aurait-il pas également un peu de pitié pour ces messieurs comme il faut, qui ne savent pas danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds? Donc, Guy Tyrolien, il est né en 1917, un des très bons poètes noirs de langue française, qui a su avec dignité et tendresse et un sens très fort de la justice proclamer sa révolte contre l'exploitation par le colonialisme et les blancs de ses frères de couleur. Alors son poème, bien sûr, « Je ne veux plus aller à leur école. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus sur les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des blancs et que l'usine sur l'océan des cannes, comme un bateau ancré, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville. Un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacres pus que gonfle un sucre blanc, brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés. Écoutez ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba, de compère Lapin. Et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il ne plus apprendre dans les livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école.
Eh bien, curieusement, c'est une poésie que j'ai apprise à l'école. J'ai appris à l'école et je me rappelle très bien parce que ça m'avait choqué ce pauvre petit noir qui est si fatigué et qui décrit l'école
et
comme ça.
C'est une fatigue éternelle, une fatigue de beaucoup d'années, de plus de 300 ans, d'une fatigue d'esclaves. C'est ça qui est cet enfant qui parle comme ça, c'est en même temps tous les esclaves qui sont toujours très fatigués. Ils mouraient de fatigue. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une forme d'esclavage. Ce ne sont pas obligatoirement des Noirs, mais ce sont des gens qui sont tellement fatigués qu'ils se finissent par se suicider. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Je trouve qu'aujourd'hui, le travail est devenu un supplice, alors que c'est une joie, normalement. Puisque l'homme, il travaille, mais pas pour la rentabilité, non. Alors, ce que dit ce petit Africain, c'est... Ah, on s'était enseigné à l'école.
Oui.
Ah, c'est magnifique. Oui. Ce qui pourrait être. Alors, le dernier poème pour cette série, je vais terminer avec La Lune. Un poète très bref, de Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel. Oui, si, il a écrit beaucoup de poèmes, lui aussi. Mais bon, la poésie est en hiver, comme le théâtre aussi. C'est ce que disait, à propos du théâtre, c'est ce que disait Orson Welles. Le théâtre est en hiver, c'est ce que disait Orson Welles. Ben, il est toujours en hiver, ça ne se réchauffe pas. Alors, un petit poème de Pierre-Emmanuel sur la Lune. Alors, c'est trois petites strophes. Lui, il était né en 1916. Une voix unique dans la poésie française contemporaine, l'architecte de grands textes, grands textes massifs et puissants et de courts poèmes denses, comme des pulsations élémentaires. Les uns et les autres ne sont qu'une seule œuvre. Donc cette lune, ces trois strophes, lourdes comme les pas du marcheur obstiné, comme les battements du cœur des vivants, comme le temps. La lune entre les pas, rien qu'une ombre là-bas. Silence autour des pas, cadence du sang qui bat. La route à pas compter, c'est toute l'éternité. Voilà le silence de l'éternité. Les oiseaux se taisent, ainsi que les poètes, ainsi que moi. Et à très bientôt.
À très bientôt, Sophie. On va peut-être se quitter avec peut-être un peu de piano.
Ah, ben très bien.
Puisque on a terminé. Il est 54, donc on va écouter un peu de piano.
Bon. Sinon, j'ai encore de la réserve.
Alors,
non, un piano, ça va très bien.
On peut peut-être en faire un dernier.
Va.
Oui,
non,
allez.
Non, ça va, ça va.
Merci Sophie et puis
ça t'a plu?
Oui. Et puis peut-être mois prochain, on est en novembre, oui, en décembre ça devrait aller.
Oui, oui.
À bientôt Sophie.
Merci, à bientôt.